Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
À la mort d'Aragon, dans Le Figaro, Jean d'Ormesson écrivait: le plus grand poète français est mort, et un romancier de génie, et un critique, un essayiste, un polémiste hors pair. Un peu plus loin, Jean d'Ormesson ajoutait: il avait une sorte de génie au sens à la fois le plus haut et le plus contestable du mot. Le génie de l'imagination et de la soumission, le génie de la mystification et de la fidélité, le génie de la grandeur et de la facilité, et du génie tout court. Les paradoxes et les contradictions d'Aragon, tous les génies d'Aragon, en 1997, pour le 100e anniversaire de sa naissance, Christine Goémé nous proposait de les explorer par un long voyage en deux volets dans sa vie et son œuvre. Une voix sans mesure, Aragon, 1897-1982, première partie, fait entrer l'infini. Outre le très admiratif Jean d'Ormesson et la voix d'Aragon lui-même, on y entendait Olivier Barbaran, Daniel Bougnou, Marc Dachy, Dominique de Santi, Charles Dobzinski, Lionel Follet, Yannick Enel, Christian Jambé, Pierre Lartigue, Jean Rista, Guy Scarpetta, Georges Sebag, André Thirion et Philippe Solers.
Une voix sans mesure, 1897-1982, Louis Aragon.
J'ai toujours joué les femmes à qui père gagne. Les années ont passé, le frémir m'en demeure. Je suppose que les voleurs, c'est le même plaisir, le même guet, le moment saisi. Ça se dit avec les mêmes mots, prendre. Elles ont leurs histoires... On a beau savoir, c'est toujours un monde, un pays étranger. Il y a des filles, avec elles, c'est tout le temps être en voyage. Et celles qui ne disent pas un mot, quand elles s'en vont le matin. Rouge, impair et manque. Parfois, elles restaient. 8 jours, 1 mois. Dans ces chambres que j'ai eues, l'hôtel ou la misère. Comme si la pièce se donnait là, d'abord étourdie, le temps de dire. Très vite, elle ne pouvait plus me croire. Peut-être pour ce que j'étais aux lumières, de m'entendre mentir aussi devant les gens assis là pour écouter le mensonge. Elle me comparait au personnage que je prétendais être. Cela devait leur sembler risible. Ça leur donnait pitié de moi. Mauvais, la pitié. Comment prendre pour un prince d'Antioche le gaillard dont on connaît trop bien les bras, les tics de langage, l'odeur? Il aurait fallu m'aimer pour moi-même. Je n'avais rien à offrir. Et puis qui ça, moi-même? Dès que mes genoux l'ont touché, les ont touchés, celles qui sont comme des chattes, elles font semblant de s'éloigner, s'étirent, se secouent de moi. On les chasserait si justement il ne fallait pas dormir. Une qui avait la manie de me réveiller. Je l'aurais bien battue, mais voilà, je peux pas battre les femmes. C'est bête. J'ai essayé de les frapper. Ça finit toujours par des caresses.
Première partie. Faites entrer l'infini. Une émission de Christine Goémé, mise en onde par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. Voici un écrivain parmi les plus controversés. Adulé et haï, combattant et combattu, Louis Aragon s'est confronté de toutes les manières à la littérature de notre temps. Poète, romancier, journaliste, essayiste, critique d'art, centre décentré de toutes les cultures du XXe siècle, passionné par les arts et les sciences qui nous sont contemporains, Aragon est un penseur, un éveilleur, un inventeur. Homme de toutes les identités et de tous les paradoxes, tout dire sur Aragon est impossible. De cet homme qui disait « un romancier, c'est un tricheur qui ne doit pas se faire prendre », peut-être pouvons-nous tenter ici d'entendre la complexité. Pour le 100e anniversaire de sa naissance, on édite et réédite l'œuvre de Louis Aragon, par exemple « La défense de l'infini » avec ses fragments récemment retrouvés au Texas, ou « La Pléiade » accompagnée de votre album « Aragon » Jean Rista. Et en le lisant, on a d'emblée le sentiment d'être placé devant un personnage de fiction, et puis ça commence par une bizarre histoire de nom.
Le nom Aragon est inventé par le père d'Aragon, Louis Andrieux. Et alors vous voyez les initiales déjà,
hein, oui.
Louis Aragon, Louis Andrieux. Il lui donne son prénom, mais il invente le nom Aragon. Alors, dans l'album Pléiade, je risque une hypothèse. Cette hypothèse me vient d'Aragon naturellement, mais enfin je la donne comme telle. Louis Andrieux, qui a été ambassadeur de France en Espagne, aurait eu, là-bas, dans ce pays, il aurait eu une maîtresse.
Qui était d'Aragon ?
Vous voyez la perversité, parce que quand il rencontre Marguerite Toucas-Massillon, qui est la mère d'Aragon, lorsqu'il la rencontre, il est déjà un homme d'âge mûr, puisqu'il a plus de 50 ans, et Marguerite est une toute jeune fille. Et il faut songer à ce qu'est la France en 1897, à la fin du 19e siècle, qui est une France tout de même bourgeoise, l'ordre moral est triomphant, et il faut cacher le péché, il faut cacher la honte. Et il se passe quelque chose d'absolument inouï, à savoir que on cache d'abord le bébé Aragon, on le cache en province, on l'envoie avec une nourrice en Bretagne, et puis ensuite on décide de lui cacher, et de cacher à tout le monde, la vérité, à savoir que sa mère va lui être présentée comme étant sa sœur, et son père sera le parrain. Et évidemment, on voit tout de suite que cette situation est de l'ordre de la fiction.
Et oui.
Vous avez raison de parler du destin de l'écrivain à partir du moment où on lui donne un nom qui n'est plus sien. Il est dans la fiction. Il est tellement dans la fiction que cet enfant, et ça c'est un des apports de cet album de la Pléiade, parce que maintenant on a les documents, cet enfant n'a aucune existence légale jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'au moment où la déclaration de guerre. À ce moment-là, il faut bien qu'il ait des papiers, qu'il ait un état civil. Or, jusqu'à cette époque, il n'a pas d'état civil. C'est-à-dire, Louis Aragon n'existe pas jusqu'à ce moment-là. Alors, il faut que, pour qu'une telle situation soit tolérée, admise, il faut que le père ait un pouvoir considérable. Et Louis Andrieux est une des grandes figures de la Troisième République. Louis Andrieux a été préfet de police de Paris, il a été député, c'est un personnage extraordinaire, il réprime sauvagement la commune à Lyon. Il est élégant, comme son fils le sera plus tard. On l'appelait l'homme aux gants gris. Mais non seulement, c'est un personnage qui, a passé 70 ans, va soutenir une thèse de doctorat en Sorbonne, thèse principale et une thèse annexe, l'une sur Gassendi et l'autre sur Rabe. Certes, Louis Andrieux n'a pas délaissé totalement son fils. C'est vrai qu'il l'emmenait se promener au bois de Boulogne, c'est vrai qu'il lui faisait faire du cheval et qu'il lui a appris l'escrime, etc. Mais enfin, en tout cas, il ne donnait pas d'argent, ou si peu, que le jeune Aragon aura souffert toute sa jeunesse de cette misère. pour survivre, Marguerite, donc la mère d'Aragon, Marguerite tient une pension de famille avenue Carnot. C'est Marguerite, c'est la petite qui entretient tout le monde. Le grand-père a perdu sa fortune en spéculant, puis ensuite en créant des maisons de jeux à Istanbul, puis à Paris. Je raconte souvent ce témoignage que Philippe Soupeau m'a demandé de transmettre. Peu de temps avant sa mort, Soupeau m'a dit « Racontez, Rista, racontez combien Aragon a souffert de cette misère et combien il a été malheureux. Et aussi, comme il était généreux, comme il était bon. » Mais la souffrance du jeune Aragon, il faut la connaître, on ne peut pas mettre ça entre parenthèses. Alors c'est vrai que c'est une situation romanesque.
Alors il écrit très jeune, hein. Sa mère d'ailleurs effectivement écrivait des romans. Et puis
on écrit dans la famille.
Il avait un oncle qui écrivait des vers.
Oui, je vais vous montrer un ouvrage de son oncle. Voilà un ouvrage d'Edmond, en tout cas Massillon, qui s'appelle Saturnin, qui est publié en 1911. Et là, avec une reliure décorée, comme on pouvait faire à l'époque. Voilà un autre ouvrage d'Edmond, qui s'appelle La double aventure. Et d'ailleurs, cet ouvrage, La double aventure, est dédicacé, je vais vous lire la dédicace d'Edmond, à ma sœur Marguerite, en gage d'affection fraternelle et pour la remercier du concours qu'elle m'a prêté dans l'élaboration de ce livre de tout cœur. C'est daté du 22 novembre 1907.
Alors racontez un peu, trois lignes. Juste comme ça pour entendre la langue de l'oncle Edmond.
Victor de Cruzière, approché de l'auto, serra la trompe et lui fit rendre des sons épouvantables. Eh bien voyons, pas encore prêt ? De la ferme sortirent Valentin Gobert, Maurice Comte et Monsieur de Générac. Tous trois, comme Victor, étaient guêtrés de cuir et vêtus de gros velours à côtes, le fusil à l'épaule. « Voilà les autres !» annonça Cruzière, désignant un groupe silhouetté à travers les rangées de vignes dans le jour vague de 4 heures et qui venait de la grande ferme, là-bas, tapis derrière les amandiers. « Mademoiselle de Générac est en retard !»« Non, non, me voici !» Alors, voilà le...
Bon. C'est plein d'interjections comme ça, c'est pas mal d'ailleurs. Et
en vous lisant ces quelques lignes, j'avais évidemment en mémoire le premier texte écrit par le jeune Aragon, qu'il a publié dans le Libertinage, qui s'appelle « Quelle âme divine ».
À 6 ans. Et il n'est pas d'ailleurs unique, il est le seul qui a subsisté. Car en réalité, j'ai entre 5 ans et 9 ans, écrit une 60aine de textes de cet ordre que je considérais chacun comme un roman, dont toute une partie s'appelait « Les Rounets ». C'était une suite de romans sur les membres d'une même famille, ce qui indiscutablement provient des Rougon-Macquart, dont je n'avais naturellement aucune idée, mais que ma mère prenait au cabinet de lecture de l'avenue Neuilly, où nous habitions. Tous ces textes ont disparu. Celui-ci a subsisté uniquement parce que, un peu plus tard, ce qui explique d'ailleurs une différence de date, en réalité, c'est écrit en 1903, mais c'est en 1904 que je l'ai donné à ma mère, dans une couverture de cahier noire, luisante, que je trouvais très belle. Et ma mère s'appelait Marguerite, d'ailleurs je l'appelais ainsi, puisqu'elle n'était pas officiellement ma mère. Elle avait ça, elle l'avait gardé, et quand je l'ai retrouvé dans sa bibliothèque, au moment de réunir ces nouvelles, j'ai mis ça en tête. Personne n'a compris que ça avait été écrit par un enfant.
Aragon, à l'école, va rencontrer de futurs écrivains. Hein. Je crois qu'il va à l'école avec Monterland, avec les frères Prévert aussi.
Il y a les frères Prévert, il y a Monterland, et Monterland, qui était un tout petit peu plus âgé qu'Aragon, mais Monterland n'a pas oublié la lecture que le professeur a donné à l'époque d'une rédaction du jeune Aragon.
Alors on voit très bien, Jean Rista, cette famille à la fois très cultivée et complètement ruinée. Mmh. Il y a un fils visiblement doué et intelligent. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va en faire de ce fils doué? Oui. On va en faire un médecin quand même.
On va en faire un médecin parce que c'est un écrivain, ça ne rapporte pas d'argent.
Oui, et puis, au fond, il y a une tradition française d'écrivain médecin d'une certaine manière.
C'est vrai.
De très bonne heure, c'est-à-dire dès la sixième à peu près, tout le monde a décidé que je serais écrivain. Il y avait que moi qui avait décidé que je ne le serais pas. Ma mère voulait que je devienne médecin. C'est autre chose. Et d'ailleurs, j'étais décidé à ne pas être médecin. Puis, quand la guerre est arrivée et que j'étais bien persuadé que j'allais partir un de ces jours et comme tout le monde me faire tuer, alors j'ai pas voulu refuser à ma mère le plaisir de commencer ma médecine. Ça m'a d'ailleurs probablement sauvé la vie, à vrai dire, puisque j'ai fait au poste peu dangereux de médecin d'infanterie, la guerre de 14. Et bien ensuite, j'ai été étudiant en médecine à mon retour parce que je ne pouvais pas faire autrement. Ayant été démobilisé un petit peu plus tôt que ne l'étaient les autres gens pour poursuivre mes études, j'ai été jusqu'à l'internat, j'ai été externe, mais là, j'en ai eu assez. Et un jour, au lieu d'aller à l'hôpital, j'ai été au bois de Boulogne, j'ai pris un bateau, j'ai canoté toute la matinée sur le lac et puis je ne suis jamais retourné à l'hôpital.
Est-ce que le fait d'avoir été dans les hôpitaux ne vous a pas donné une connaissance particulière de la souffrance humaine?
Oh, ça m'a donné des connaissances particulières, certainement. Dans mes livres, il y a plein d'étudiants en médecine. On décrit ce qu'on connaît. Aussi, la méthode anatomique a été pour moi très utile. Et également la méthode clinique pour décrire devant un malade qui vous arrive l'histoire de la maladie, l'aspect de la maladie, etc., est une méthode très stricte qui peut avoir son application littéraire, à mon sens, et qui fait partie, enfin, des disciplines de mon réalisme. D'ailleurs, les méthodes littéraires sont très proches des méthodes scolaires. Au fond, parmi les gens qui m'ont appris quelque chose, il y avait ce professeur de sixième, je crois, qui m'a expliqué une chose toute simple, mais que j'ai pas oubliée de ma vie, c'est que quand on écrivait ce qu'on appelait à l'école une rédaction, il fallait essentiellement imaginer que cette rédaction avait un commencement, un milieu et une fin. Et pour se représenter ce que c'était le milieu, se dire que si on avait la possibilité de faire une illustration du texte qu'on écrivait, se représenter ce que l'on illustrerait, et cela était nécessairement le milieu. Ce sont des choses de cet ordre, assez enfantines, comme vous voyez, mais qui joue sur l'imagination de quelqu'un qui se met à écrire. J'ai écrit avant de savoir écrire. Oui, je dictais à mes tantes.
Et qu'est-ce que vous écriviez?
Des romans, bien sûr. J'ai écrit des dizaines et dizaines de romans avant l'âge de 10 ans.
Aragon médecin, c'est important parce que pendant la Première Guerre mondiale, il est aux armées comme médecin auxiliaire. Et que, à ce moment-là, il voit l'horreur de cette guerre. Il a affaire aux blessés, il a affaire aux morts, et que cette expérience-là le remarqué à jamais.
Oui, elle est centrale. Hein.
Elle est centrale. Je pense qu'on ne comprend pas le surréalisme. On ne comprend pas Aragon ou Breton, enfin, puisque nous parlons d'Aragon, pas le comprendre sans faire référence à ce qu'a été l'horreur de cette guerre pour ces jeunes gens. Oui. L'horreur à la fois de ce qu'ils ont vécu et vu. Et
l'épouvante.
L'épouvante. Et alors, je me suis souvent pris à rêver à Aragon écrivant, malgré tout, au chemin des dames, écrivant. Je me dis comment pouvait-il faire en milieu de toute cette horreur.
Je revenais du chemin des dames Et quand les gens parlaient de la guerre, même pour parler contre elle, je me fâchais. Parce que j'étais de ceux qui croyaient, c'est une idée un peu enfantine, mais enfin, c'était la mienne, que pour lutter contre la guerre, il ne faut pas la nommer. Que la nommer, c'est lui faire de la réclame. Mais en fait, on trouverait des allusions à la guerre dans mes livres d'alors. Par exemple, dans Anicet. Il est intéressant de voir ce qu'elles sont. Dans le premier chapitre, où c'est en réalité Arthur Rimbaud qui parle. Mais est-ce que vous croyez, quand je le fais parler de la guerre de 70-71, cela ne sonne pas autrement à nos oreilles, et ça ne sonnait pas autrement à nos oreilles de jeunes gens qui sortions de la guerre de 14-18? Et par exemple, écoutez, à cette époque, l'issue malheureuse d'une guerre encore récente, les dissensions politiques et le joug toujours sévère du romantisme portaient les esprits parisiens à des violences peu coutumières aux habitants de la ville la plus polie du monde. Un quidam m'arrêta et m'ordonna d'un ton emphatique de mettre chapeau bas devant je ne sais quelle image de notre inhumilité. Je caressais mon alibrius de quelques épithètes et n'en fis rien. Bien sûr, quand on lit ceci, on pense que ceci a été écrit après le mouvement Dada. Or, il n'en est rien. Le secret est que ceci a été écrit avant. J'ai beaucoup dit que Anicet a été écrit en 1919, ce qui est vrai pour sa plus grande partie. Mais les deux premiers chapitres, et celui-là par exemple, ont été écrits en réalité en 1918, pendant l'été 18, alors que j'étais au chemin des dames. Et précisément, c'est une espèce de défi à la guerre que dans le cœur même de la guerre, d'écrire déjà comme si elle était finie.
Oui.
C'était une idée d'ailleurs qui a eu son illustration dans un roman de ce temps que personnellement j'ai beaucoup aimé, qui est oublié aujourd'hui, d'un homme qui lui n'est pas oublié. Je veux parler de Louis Deluc, qui est un des fondateurs du cinéma français, qui a publié à l'époque un livre qui s'appelle « La guerre est morte », avec sur la couverture un visage de femme qui était en réalité le visage d'Ève Francis, sa femme, qui était de Gerda Wegener, qui passait pour allemande. C'était aussi un défi. En 17, publier un livre qui s'appelait « La guerre est morte » est une chose tellement scandaleuse que d'abord, le visa de la censure y avait été refusé. Et quand par la suite, j'ai parlé à Apollinaire de ce livre, il était un peu gêné. C'est que vous savez qu'Apollinaire, à un moment donné, était à la censure. Et c'est lui-même, je dois dire, qui avait refusé le visa Louis Deluc. Mais moi, je refusais son visa à la guerre. Je dois vous dire que je ne croyais pas au retour de la guerre. Je ne croyais pas à une pareille folie de mon propre pays. Et une des choses qui ont d'ailleurs changé ma vie a été le jour où il y a eu un retour de la guerre, c'est-à-dire dans les années de 24 à 26, au moment de la guerre du Rif. Il y a eu sur moi une influence beaucoup plus déterminante que bien d'autres choses de l'histoire contemporaine.
Anicet n'avait retenu de ses études secondaires que la règle des trois unités, la relativité du temps et de l'espace. Là se bornaient ses connaissances de l'art et de la vie. Il s'y tenait dur comme fer et y conformait sa conduite. Il en résulta quelques bizarreries qui n'alarmèrent guère sa famille jusqu'au jour où il se porta sur la voie publique à des extrémités peu décentes. On comprit alors qu'il était poète. Révélation qui tout d'abord l'étonna, mais qu'il accepta bonnement, par modestie, dans la persuasion de ne pouvoir lui-même en trancher aussi bien qu'autrui. Ses parents, sans doute, se rangèrent à la vie universelle, puisqu'ils firent ce que tous les parents de poètes font. Ils l'appelèrent fils ingrat et lui enjoignirent de voyager.
Yannick Hennel, on pourrait dire d'emblée que ce roman n'a pu être écrit que parce que Aragon avait lu, en 1915, Lautréamont.
Voilà.
Je crois qu'il faut quand même préciser un peu les choses. Donc, 1915... Il fréquente la librairie d'Adrienne Monnier, aux Amis des Livres, rue de l'Odéon, où il trouve au catalogue du prêt dans l'édition Genonceau de 1890 le texte complet des chants de Maldoror dont il avait découvert quelques années auparavant le premier chant dans la revue Vers et Prose de Paul Fort. Voilà, donc en fait on dit 1915, mais ça remonte à quelques années auparavant.
La découverte de l'Outremont ?
Oui.
Oui, effectivement.
C'est très tôt, quoi.
Ah oui, c'est très tôt. Vous savez qu'il y a d'abord Rémy de Gourmont, il y a Larbaud et il y a Léon Blois. C'est les trois avant les surréalistes qui l'ont un petit peu dépoussiéré, enfin qui l'ont signalé. Aragon, puisqu'il lit tout à l'époque, il impressionne d'ailleurs Adrienne Monnier par ses lectures.
Et découvre, Breton aussi.
Et Breton aussi. Découvre l'Outremont. Alors ce qui se passe, c'est que c'est Aragon, au Val-de-Grâce, qui parle un certain jour de septembre 17, je crois, il parle à André Breton pour la première fois de l'Outremont. André Breton n'a jamais entendu parler de ce l'Outremont. Son dieu vivant, c'est Rimbaud. Ça se passe boulevard Raspail. Il raconte ça à Aragon dans L'Outremont et nous, en 67, quand il va revenir sur tout son passé. Et il raconte, c'est une scène magnifique, Breton qui est épaté d'entendre ce nom, qui demande à entendre, qui demande à savoir, et va suivre une série de nocturnes, comme on dirait aujourd'hui, de lectures entre Aragon et André Breton au Val-de-Grâce, dans ce pavillon qu'on appelle le quatrième fiévreux, qui est en fait le pavillon des fous, où une fois qu'ils se sont procurés les chants de Maldoror, ils se le lisent en montant la garde.
À
tue-tête, effectivement, ils crient Maldoror, pendant que les fous derrière éructent. Et c'est quasiment la naissance officieuse de ce qu'on appellera plus tard le surréalisme, c'est-à-dire de cette entente magistrale entre Aragon et Breton.
Alors, voilà, pour nous, stupéfiante, l'intérêt que nous portions aux mêmes écrivains. Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire, L'Outremont, Alfred Jarry. Qui pouvait alors faire un choix pareil ? Personne, strictement personne. Alors, L'Outremont, ça va devenir effectivement le mot-clé, le mot de passe entre Breton et Aragon, finalement.
Voilà, au début, tout se passe à travers cette clé qui déverrouille toute l'époque pour eux, L'Outremont. Dans leur correspondance, je suis allé un petit peu voir, il est question constamment de L'Outremont. Et pour en revenir à Anicet, Aragon explique à Breton, ça c'est en 18 ou 19, que le roman est construit pour arriver, au bout de 200 pages, à écrire le mot Isidore Ducasse, c'est-à-dire, comme vous savez, le nom de L'Outremont. Et à tel point que le roman est finalement une espèce de leurre, de panorama, comme il dit, uniquement pour pouvoir commencer avec une scène sur Arthur Rimbaud, qu'on rencontre dans un cabaret, et finir sur le nom d'Isidore Ducasse, qu'Anicet présente comme l'enregistreur à la fin. Et je me suis même dit que ce n'était pas un hasard que ça finisse sur Ducasse, c'était une manière pour Aragon finalement de faire signer son propre livre par Isidore Ducasse. C'est le dernier nom propre, à la dernière ligne. C'est comme si c'était Isidore Ducasse qui signait Anicet. Manière de dire « je suis L'Outremont ».
Le nom de L'Outremont parcourra la vie entière d'Aragon. Enfin, peut-être par période plutôt, non ?
Par période, moi parfois j'ai même tendance à penser que c'est le personnage le plus important de sa vie avec Elsa, en concurrence directe.
Oui.
Et que peut-être même il trompe L'Outremont avec Elsa pendant un très long temps, ce qui explique peut-être aussi certains romans un peu moins bons. Alors c'est non seulement sa lecture préférée, son écrivain préféré comme on dit, mais je pense même que c'est le nom de code de ses opérations les plus secrètes à Aragon, à savoir que dans Traité du style, livre génial, c'est un livre marqué du sceau de Maldoror.
Oui.
Il prend carrément la défense de L'Outremont, il va traiter un critique de vieille pourriture parce que ce critique n'a rien compris à L'Outremont. Il dit non pas que c'est le plus grand poète ou celui qui a les métaphores les plus radicales, il dit que c'est l'homme le plus intelligent, c'est-à-dire qu'il en fait un logicien.
Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai, puisqu'il y a, comme vous le savez, les poésies qui viennent rectifier, corriger, comme dit Ducasse, les chants de Maldoror.
Mais ce qui est étrange, c'est qu'au fond, L'Outremont arrive dans la vie d'Aragon, un peu aussi comme il arrive systématiquement dans l'histoire de la littérature et des idées. Il a des périodes d'occultation et puis des périodes où il est tout présent. Alors par exemple, effectivement, début du siècle, comme vous avez dit, Léon Blois, Larbaud, etc. Puis ensuite, occultation. Puis ensuite, il revient avec Aragon et Breton. Oui. Breton qui va recopier à la main les poésies
d'Isidore
Ducasse. Bon. puis disparition, puis ensuite, dans les années 60-65, retour de Lautréamont sur la scène. Aragon va d'ailleurs s'en tracasser à nouveau. Et puis aujourd'hui, effectivement, vous venez de sortir une revue entièrement consacrée à Lautréamont, Ligne de risque. C'est étrange ce qui se passe autour de Lautréamont. Et d'ailleurs, Aragon sera presque, on pourrait dire, le symptôme d'une certaine manière. Hein. Comme si Lautréamont, au fond, dans la vie d'Aragon, redistribuait, faisait le tri.
Effectivement,
il sert au fond à ça, quoi.
Il sert à ça, et je pense même qu'il sert à ça pour certains écrivains qui ont le courage d'étudier ça, parce que c'est Ponge disait ça. Ponge disait, ouvrez Maldoror, refermez-le, c'est toute la bibliothèque qui se remet en marche.
Oui, c'est ça.
Donc il y a un effet vertigineux de Lautréamont qu'on peut réactualiser à l'infini. Aragon a très très bien compris ça, à mon avis, et il essaye de se mettre dans cet axe, l'axe Lautréamont, l'axe du sens de l'infini.
À Nice a été écrit à l'époque du mouvement Dada, avant le surréalisme, dans une période où j'appartenais à un groupe où il était de la morale de ce groupe de condamner le roman. Par conséquent, le fait pour moi d'écrire un roman, et je le faisais avec tellement d'intention que dans le titre même du livre, j'avais écrit non pas « À Nice ou le panorama », mais « À Nice ou le panorama » roman, pour le goût sans doute de la littération qu'il y a dedans, mais aussi pour souligner ma volonté de roman contre l'opinion publique qui était autour de moi. À Nice a été écrit dans un certain état d'esprit. Et le personnage central, à Nice lui-même, il serait vain de nier que dans mon esprit, c'était effectivement moi-même. De même d'ailleurs que toutes sortes d'autres personnages dans le livre se reconnaissent. On ne peut pas ne pas reconnaître Picasso, ne pas reconnaître Max Jacob, Jean Cocteau, André Breton, Jacques Vacher et Arthur Rimbaud. Mais même les reconnaissant, je dirais que c'est leur aspect extérieur qui a été emprunté pour dire quelque chose. La fin n'était pas de décrire ces personnages. Et la preuve en est que le personnage principal d'Anissé, c'est-à-dire le personnage féminin principal, Mirabel, eh bien, la question s'est posée de savoir et de dire qui était Mirabel. J'étais un peu gêné par rapport à Mirabel. Pour des raisons qui n'ont rien à faire avec la littérature, j'avais cru devoir dire à 3 ou 4 personnes que certainement c'était d'elle que venait l'image de Mirabel. Je ne pouvais pas les décevoir. Je peux bien avouer aujourd'hui qu'en réalité, Mirabel n'était pas une femme existante, mais une idée. Mirabel, c'est la beauté moderne. Et cela est si vrai que dans l'histoire de Mirabel, il y a ce fait central qu'un beau jour, malgré tous les soupirants qu'elle a autour d'elle, des hommes comme, par exemple, Picasso, ou Cocteau, Breton, etc., elle accepte de se marier avec un personnage totalement inventé sous cette forme, qui est appelé Gonzalez, Pedro Gonzalez, et qui n'a jamais existé comme tel, mais qui habite un petit hôtel de la rue de la Baume. Or, le petit hôtel de la rue de la Baume, lui, a existé. C'était la maison qu'habitait le marchand de tableaux Léonce Rosimbert. Et en fait, je voulais signifier par là comment, à un moment donné, la beauté moderne de cette époque était passée aux mains des marchands. Cette idée, entre autres, me permet de vous expliquer combien l'interprétation de ce qu'on appelle en général les pilotis, expression souvent employée depuis Stendhal, des personnages, est insuffisante, très souvent, à expliquer la création et la formation des personnages de romans, pas seulement chez moi, bien entendu.
Nous allons parcourir ensemble une série de chroniques écrites par Louis Aragon entre 1920 et 1923, c'est-à-dire pendant sa période dadaïste. Il s'agit donc d'un inédit que vous avez retrouvé, Marc Dachy, et publié au Mercure de France. Ça s'appelle « projet d'histoire littéraire contemporaine. Alors, ces articles de 4 à 5 pages chacun ont été écrits pour le couturier Jacques Doucet, qui était donc le mécène d'André Breton et de Louis Aragon.
Il s'est trouvé qu'Aragon a commencé à rédiger, à la demande de Jacques Doucet, pour une certaine somme par mois, une espèce de relation, effectivement une chronique à la manière de Saint-Simon, quelquefois par paragraphe, quelquefois par chapitres entiers, de toutes les manifestations d'Ada, l'arrivée de Tristan de Tzara à Paris, la rupture avec Tzara, Radiguet, le vernissage Picabia, comme une vidéo de cette période dans Paris.
Il faut dire tout de même que Aragon chroniqueur, c'est vraiment quelque chose. C'est drôle, c'est méchant parfois, c'est vif, la plume est acérée. Et effectivement, comme vous dites, c'est presque comme un reportage en direct. Enfin, on a l'impression d'y être.
Effectivement, on y est. Et je trouve qu'on sent bien la personnalité d'Aragon à ce moment-là parce que, bon, si vous lisez Anicet ou le Panorama Roman ou le Paysan de Paris, certes, ce sont des textes éblouissants et qui montrent déjà l'extrême intelligence. Mais ce sont des romans sur lesquels on peut effectivement se pencher et réfléchir à la position théorique qu'adopte Aragon en tant que romancier. Mais là, dans ses chroniques, il se dévoile tout complètement puisqu'il donne sa position, il dit quelle est celle des autres. Il est dans une position journalistique, mais une position journalistique accusée, où il prend parti, où il est un des protagonistes. Effectivement, c'est très acéré, je crois qu'il assassine définitivement Gide.
Et pas seulement Gide, mais Biro, par exemple.
Pierre-Albert Biro publie la revue SIC, son idée, couleur, forme. Et cette revue, qui est effectivement dans le siège d'Apollinaire, le faisait beaucoup rire, Apollinaire. Et ça, Aragon le rend très bien, les rires goguenards d'Apollinaire au sujet de la revue SIC. Et ce personnage un peu naïf, avant-gardiste à tout craint, mais dans un style bonhomme qui devait beaucoup exaspérer et les dadaïstes et les futurs surréalistes, effectivement dépeint d'une manière terrifiante.
C'est intéressant de parler de l'article sur Biro, parce que on parle de SIC, et que dans toutes ces chroniques, il est fortement question, évidemment, des revues, qui jouent un rôle central, qui organisent leurs propres manifestations, et qui sont le centre, au fond, des grandes querelles, des grands débats, des grandes positions que prendront les futurs surréalistes. Et puis, par rapport et contre la littérature de l'époque, ou avec, c'est-à-dire les Gilles, les Valéry, etc.
Oui, vous avez d'autant plus raison que c'est une chose qu'on a tendance à oublier maintenant. Mais toute l'histoire de la littérature du XXe siècle, en tout cas celle dont nous parlons, se dessine à travers des revues indépendantes, non institutionnelles, et que les dadaïstes exposaient volontairement dans des lieux non culturels. Une librairie, par exemple, comme celle qu'avait fondée la femme de Philippe Soupeau, Mick Soupeau, exposait pour la première fois Man Ray à Paris. La première exposition de Max Ernst au Sans Pareil était une librairie fondée par les sœurs Grandjus, qui étaient des amis de Breton. Et donc, la maison d'édition qui a publié littérature, c'était donc aussi au Sans Pareil. Tout s'était publié dans des lieux qu'on dirait aujourd'hui, ou qu'on disait dans les années 70, underground. Évidemment, tout ça aujourd'hui se retrouve en Pléiade, mais il ne faut pas oublier que tout a commencé hors les circuits éditoriaux normaux, à l'exception précisément d'Aragon. Le beau paradoxe de cette période, c'est que tous ces jeunes gens qui sont insolents à souhait sont en même temps d'une élégance rare et séduisent entièrement tout ce milieu de la littérature parisienne, qui n'est d'ailleurs pas uniquement celui de la NRF, mais ils sont immédiatement reconnus comme les plus brillants des jeunes littérateurs. Et quelqu'un comme Aragon, dans le même temps où il brocarde Gide, publie quasiment immédiatement à la NRF.
Alors, toutes les méchancetés sur Gide, on va bien en trouver une à lire. Voilà, la description de la maison de Gide par Aragon. C'est un endroit sinistre, la villa. Je l'ai vue le matin, le soir, jamais l'après-midi. À la station Michel-Ange-Auteuil, juste derrière le grand immeuble blanc, où l'ambassade d'Italie avait fondé un hôpital de guerre et où j'étais venu voir Apollinaire pendant sa pneumonie, on enfile une grande allée, on tourne dans l'allée des sycomores, et voilà, une maison qui a été partout décrite avec son style normand, sa disposition biscornue. Elle est bien révélatrice du goût naturel de Gide, qui est assez fâcheux. Et comme elle date, donc, tout ce qu'il y a de maisons d'artistes et artistes français encore, on a l'impression qu'il a voulu faire mieux que Jacques-Émile Blanche ou Jean-Paul Laurence. Ce n'est pas une maison, c'est un décor. Aucune vie, et tout rangé pour donner l'illusion de la vie. Par sa forme, elle n'est pas habitable. Son contenu est bien plus vulgaire que Gide n'a eu l'air de le croire. Les bibelots, les objets, les meubles, tout cela ne dépasse guère le niveau de quelques chinoiseries qu'il a réunies. Que l'on compare cet intérieur et celui bien plus mesquin d'Apollinaire, là vivait vraiment un homme. Voilà. Et puis, évidemment, puisqu'on parlait des revues, Marc Dachy, on assiste aussi dans ce livre au début de littérature. Alors, ça, c'est une revue, très très importante. On va peut-être en dire quelques mots.
Elle est née de circonstances très particulières. On sait qu'après la mort d'Apollinaire en novembre 1918, Nord-Sud cesse de paraître, c'est-à-dire Reverdy, qui publie une très belle revue, cesse de paraître au fond parce qu'elle est en deuil et que Apollinaire était son grand personnage. Donc il y a à ce moment-là un vide qui se crée à Paris dans l'horizon des revues d'avant-garde. Ce n'est certes pas Sic qui peut le combler. Et Aragon, Breton et Soupeau décident de créer leur propre revue. C'est d'ailleurs avec un héritage de Philippe Soupeau qu'on lance le premier numéro. Donc ils achètent aussi à Paterne Berrichon un petit inédit d'Arthur Rimbaud qu'ils font paraître sous forme de plaquette. Et la revue se lance sous le titre Littérature, un titre pour lequel ils ont beaucoup cherché. À un moment, elle a failli s'appeler Le Nouveau Monde, à un moment, elle a failli s'appeler Le Nègre, on le sait d'ailleurs par le témoignage d'Aragon, dans ce projet d'histoire littéraire contemporaine. Et puis, d'emblée, la revue paraît. Elle paraît donc en 1919, avant que Tristan Tzara arrive à Paris en janvier 1920. Au même moment, très vite, Breton et Soupeau se livrent à l'écriture automatique des champs magnétiques.
C'est dans la maison des amis des livres que j'ai rencontré pour la première fois Louis Aragon.
Philippe Soupeau.
Il était extrêmement brillant, extrêmement bavard, extrêmement érudit. Mais il avait une sorte de fascination pour Villon. Et alors que nous étions déjà admirateur d'Apollinaire, de Reverdy. Mais bientôt, Aragon, qui a une puissance d'assimilation extraordinaire, a tout de même compris ce que représentaient les champs magnétiques. Et c'est le premier. Car ni André Breton, ni moi-même, nous n'étions pas du tout sûrs de ce que représentaient les champs magnétiques. Nous n'avions pas encore compris l'importance de l'écriture automatique. Et c'est grâce à Louis Aragon, il faut le reconnaître, que nous avons compris ce que nous avions voulu faire. Et Aragon s'est montré enthousiaste, et comme toujours, avec cette puissance d'assimilation qu'il avait, il a premier vu l'importance de notre expérience. Et je dois dire que c'est grâce à lui si nous avons publié les premiers chapitres des champs magnétiques dans notre revue littérature. Sans lui, nous n'aurions probablement laissé de côté ses expériences.
Pourquoi la revue s'est-elle appelée littérature? Voilà ce que dit Aragon. Ce mot, entendu par dérision par nous, mépris généralement pour la revendication de ce que Verlaine dédaignait, et tout le reste n'est que littérature, fut tout de suite retenu pour ce qu'il avait de provocant, de désagréable, de prétentieux, de squelettique. Il déplut généralement, et en particulier à Reverdy, qui nous proposa d'appeler notre revue Carte Blanche. Voilà.
Picabia avait suggéré anti-littérature.
Par exemple, un des sommaires de littérature, je crois que c'est le numéro 2. Arthur Rimbaud, Les mains de Jeanne-Marie. Isidore Ducasse, les poésies. Première fois que paraissent les poésies, d'ailleurs, qui ont été recopiées de la main même d'André Breton. André Breton, note sur Ducasse et Rimbaud. Guillaume Apollinaire, Le Mendiant. Jules Romain, donc, poème. Tristan Tzara, Maison Flaque. Alexandre Gaspard Michel, Pitt et Cobourg. Paul Éluard, Pour voir. Philippe Soupeau, Gloire. Poème cinématographique. Darius Milhaud, Le bœuf sur le toit, Jean Cocteau, fragment de la préface du Socrate. Voilà un nom bizarre d'ailleurs, Cocteau, qui est aussi très très malmené, qui fait partie de ces gens que Aragon déteste et qu'il ne cesse de de décrier. Alors bon, on va parler de cette période dadaïste parce que quand même, pratiquement, ce projet d'histoire littéraire contemporaine, c'est l'histoire avec Dada, quoi. Bon, il arrive à Paris, c'est Breton, Aragon, Soupeau et les autres qui vont lui demander de venir. Hein. Il sera là à leur demande.
C'est ce moment où les choses se défont et puis se mettent en place. On le voit très bien dans tout ce livre. Il commence au fond sur un très grand désarroi. Vous savez qu'Aragon avait décidé par principe ou simplement par souci de vivre mieux, d'ignorer définitivement la Première Guerre mondiale dans tous ses écrits. Ces écrivains, ces jeunes écrivains, ça aussi du reste, décident de faire silence là-dessus. Mais le choc est là, bien évidemment. Et un manifeste comme celui de Tristan Tzara, le manifeste d'Adam 1918, accuse la volonté de rompre les chaînes de la logique, les chaînes syntaxiques, les chaînes de l'association grammaticale, enfin de toutes les contraintes que ça suppose par rapport à une liberté narrative plus grande. Donc ce qui se passe pour Aragon en ce moment-là, c'est qu'il décrit très bien dans ce projet d'histoire littéraire contemporaine leur désarroi, qui est très apparent dans Anicel ou Panorama roman, où le héros emprunte à la fois la vie de Rimbaud et puis joue avec cette question rimbaldienne qui est posée à tous les dadaïstes et surréalistes, c'est-à-dire la fin de l'œuvre. N'oublions pas que, par exemple, dès 1923, Marcel Duchamp avait décidé de ne plus rien faire, et que donc on était à la fois dans une position d'extrême effervescence créatrice, mais en même temps dans un refus de l'art en tant que tel, et au moins de la façon dont l'art était utilisé.
Alors, l'arrivée de Dada à Paris, c'est donc un juif roumain, très laid, paraît-il, enfin d'après Aragon, qu'il est laid. Une certaine stupeur qui succède au rire ramène cette finesse orientale au visage pâle, comme d'un mort, dont toute la flamme s'est retirée dans le regard noir et très beau. Voilà. Alors, il est laid et il est beau en même temps. Et il disait « Dada ».
Je vous disais...
Les deux A très brefs, et c'est Théodore Frankel qui lui a appris à dire « Dada » comme on fait ici, dit Aragon. Alors, il était très gêné par son accent, hein, quand il arrive à Paris de Zara.
Et cet accent est tel qu'on a parfois entendu à la radio des enregistrements qui étaient attribués à Tristan Tzara, sous prétexte qu'on avait retrouvé des enregistrements avec un fort accent.
Oui.
Or, c'était assurément pas Tristan Tzara qu'on avait retrouvé là. Cet accent lui a très vite passé. C'est vrai qu'il en était très gêné. Et ce qu'il y a de beau dans ces descriptions d'Aragon, c'est que justement, il y a cette ambiguïté du Tristan Tzara, tel qu'il a finalement toujours été ressenti à Paris. C'est à la fois totalement fascinant et inquiétant.
Alors, on va passer, Marc Dachy, par-dessus toutes sortes de manifestations tout aussi mouvementées et passionnantes les unes que les autres. Par exemple, évidemment, la manifestation du Faubourg, la grande saison Dada en 1921, le vernissage Picabia chez Powolski, l'exposition Max Ernst, etc. Mais on va quand même parler de cette soirée du cœur à barbe, juillet 1923, qui marque évidemment la rupture avec Dada.
Donc ce qui se passe lors de cette soirée du cœur à barbe, c'est qu'il décide de travailler avec Sonia Delaunay pour les décors, avec Noam Granovski, avec Ilias Danevitch. Il y a même une danseuse qui vient danser des poèmes en zaoum. Donc, c'est très important parce que ça révèle le Tzara international, le grand catalyseur de l'avant-garde internationale.
Oui, il y avait beaucoup d'Américains aussi qui étaient présents, naturellement.
Il y avait des Américains, il y avait Jane Heap, il y avait les gens de la Little Review. On sait qu'Aragon aussi avait contact avec Matthew Josephson à Berlin, avec sa fameuse revue Broom. Et c'est vrai qu'Aragon était aussi... internationaliste par rapport à quelqu'un comme Breton. D'ailleurs, Dieu sait que Aragon ne sait plus à dire combien Breton ne lui reprochait ses femmes américaines ou même ses cigarettes étrangères. Et ce qui se passe à ce moment-là à Paris, c'est qu'il y a effectivement cet essoufflement ressenti par les futurs surréalistes par rapport à l'effet de scandale dadaïste, dans lequel au fond ils ne sont pas tellement à l'aise, d'autant plus que Tzara se sera opposé à plusieurs reprises à certaines de leurs entreprises, de manière un peu loin, mais Tzara s'était opposé au Congrès de Paris pour les directives de l'esprit moderne, considérant que c'était une entreprise très réformiste. Aragon y était opposé aussi. Le procès Barrès, qui était une figure à laquelle Breton et Aragon avaient été très attachés, et qui devait soudainement condamner Barès pour atteinte à la sûreté de l'esprit avait été tourné en dérision par Tzara, qui considérait que Barès était une figure qui ne méritait même pas d'être attaquée. Donc voyez de quel ordre étaient les malentendus entre Tzara d'une part et Breton, Aragon, Soupeau.
Oui, on sent tout de suite qu'il y a un fossé au fond, même un fossé référentiel, un fossé, bon, je voudrais pas dire culturel parce que le mot est galvaudé dans cette circonstance, mais enfin néanmoins c'est ça, quoi. Il y a tout de même la spécificité de la culture de ce groupe qui sera le groupe surréaliste, c'est-à-dire effectivement Apollinaire, Lautréamont, Jarry, Barrès.
Oui, Valéry, n'oublions pas Valéry. Que c'est auprès de Valéry qu'ils vont chercher le nom.
Qui est
de
là,
revue.
Présente, prégnante et forte, et qui pour Tzara, au fond, représente quelque chose, mais...
Non, pour Tzara, ça ne représente rien.
C'est pour Tzara, ça ne représente rien.
C'est ça ce qui se passe. Vous avez raison, c'est très bien pointé, Christine Goémé, c'est là que ça se passe, et ce fossé, au fond, ne sera, malgré une très grande estime réciproque, et on sait qu'au-delà des différents, Breton et Tzara se sont toujours estimés jusqu'à la fin, grandement.
Bien sûr.
De même que...
Aragon
et Breton, tout ça, toute proportion gardée, toutes les choses se sont ensuite remises dans le fil d'une admiration réciproque. Mais donc, ce qui se passe lors de cette soirée, c'est que à l'essoufflement parisien de l'idée d'avant-garde, dont au fond Breton n'avait pas entrevu grand-chose, mais dont il allait tirer évidemment ce qu'on aura appelé le surréalisme par la suite, Tzara propose une accélération artistique, donc fait le lien avec le Zaoum, avec Sonia Delaunay. Et prépare cette soirée du cœur à barbe. Que se passe-t-il? Au prétexte qu'il a fait mentionner dans le programme que des poèmes d'Éluard seraient lus au même titre que des poèmes de Cocteau et d'autres, et alors effectivement Cocteau était la bête noire du groupe, encore que ça soit assez compliqué à analyser quand on regarde les choses de près, tous entretenaient des liens personnels avec Cocteau malgré tout.
Oui, il se voyait dans les réunions où Cocteau était omniprésent et il publiait parfois dans la littérature.
Mais voilà, bon. Donc ça faisait partie des susceptibilités humaines, mais pas nécessairement toujours publiques. Enfin, toujours est-il qu'Éluard décide d'aller casser la gueule, comme il dit, à Tristan Tzara, parce que des poèmes de lui sont annoncés dans la soirée du cœur à barbe. Et le groupe des Russes qui organise cette soirée, Tcherez, etc., un certain Serge Romoff, préviennent les surréalistes qu'il n'y ait pas question qu'il y ait des interruptions, ce qui évidemment ne fait que accroître la tension, etc. Donc des incidents ont lieu.
Des incidents violents, peut-on dire même.
C'est ça, Breton monte sur la scène, casse le bras de Pierre
un
de Massot. C'est un coup de canne bien lassené. Tzara qui était assez...
Il est viré par la police par ailleurs. Avec ménagement, explique Aragon, parce que Breton est en smoking...
Alors ça, c'est une chose assez compliquée qui entache un peu la mémoire de Tzara.
Est-ce que Tzara a appelé la police ou non?
Non.
Alors, fait venir les flics.
Alors le témoignage de...
C'est quand même ça le problème.
D'Aragon, qui est accablant, est en même temps extrêmement précis. Il faut voir ce qui se passe. Il explique très bien que c'est un journaliste qui a fait entrer la police dans la salle. Et jamais Tzara n'a fait appel à la police. On reproche à Tzara de s'être adressé à un agent en disant « celui-là ». Alors je suppose que ce qui a dû se passer lors de cette soirée, c'est que les agents étaient en train de se saisir d'un tas de gens, qu'ils ont dû vouloir embarquer quelqu'un qui n'avait pas dit un mot, et que Tzara a dit « non, pas lui, lui ». En tout cas, c'est ce qui ressort du témoignage d'Aragon. Il faut dire une chose, c'est que Tzara s'est toujours absolument défendue de cette chose, qu'il a été attaqué à ce sujet par Breton dans Nadia, que Tzara a riposté, et que dans les éditions ultérieures, Breton a donné acte à Tzara. Il a déclaré que puisque Tzara lui disait que ça n'était pas exact, il barrait ça de son édition, et l'incident en est resté là. Et c'est pour ça que ce témoignage d'Aragon est extrêmement précis, parce que sur une affaire qui était restée totalement nébuleuse, on a de nouvelles précisions. Mais alors qu'il faut regarder de très très près, puisqu'au fond... Il n'a pas fait appel à la police ce jour-là, Tristan Tzara.
Oui. Marc Dachy, vous avez fait un entretien, un long entretien, avec Aragon.
En 72,
donc, à la fin de la vie d'Aragon. Et Aragon vous parlait du dadaïsme très longuement. Alors, qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a repris et qu'est-ce qu'il a gardé de cette période pour déployer son œuvre?
Il était très émouvant de voir qu'il faisait retour sur cette période et qu'il tenait beaucoup à en parler. Je pense qu'Aragon avait très bien compris que les choses étaient en train de s'effacer définitivement, et il a contribué autant que possible par le plus de témoignages.
À restituer et à faire passer.
Absolument.
Pour nous autres lecteurs, au fond, ce qu'il en était de cette vivacité, de cette flamme.
Et jouant par là un ultime tour à tous les chercheurs et à tous ceux qui avaient de lui une image de poète je ne vais pas dire asservi, mais enfin dans l'aura du Parti communiste français, jouant ce tour-là, d'être malgré tout celui qui donnerait le plus de témoignages les plus précis et les plus enthousiastes sur une période qu'il était censé avoir reniée. Il est clair qu'il ne la reniait pas du tout et que j'ai tendance à voir ça comme ça. Vous me dites qu'est-ce qu'il en a gardé ? Il s'est très bien expliqué en disant qu'il avait décidé de garder en toutes circonstances le goût du scandale pour le scandale. Ce qui est très étrange, parce que quand on voit l'importance de l'œuvre, on ne peut pas dire que ce soit une œuvre qui vive uniquement du scandale, au sens où on parle du scandale quand on parle de Cravant ou des soirées dadaïstes de Zurich. Mais effectivement, il a gardé une liberté qui faisait qu'il se permettait une démarche en zigzag, si j'ose dire, et de... Vous connaissez la totalité de l'œuvre, elle est toujours surprenante, et chaque fois, il se permet, que ce soit Manon la Diane française, ou il se permet poétiquement et littérairement la plus grande liberté créatrice possible, et ça, je pense que c'est un héritage adéniste type.
J'étais le seul d'ailleurs dans le groupe qui a été celui des dadaïstes parisiens et ensuite des surréalistes. J'étais le seul à écrire des romans initialement. C'était très mal vu. Ça ne se faisait pas. Cependant, par suite peut-être de l'amitié, entre autres choses, mais probablement aussi d'autres considérations, j'étais soutenu par quelqu'un dont la voix était prépondérante et qui était breton. Et Breton a imposé à mes autres amis un livre comme Anicet. Bon, j'avais écrit Anicet, j'ai écrit Télémaque. Télémaque est le contraire d'Anicet. Anicet est une chose qui était basée sur des faits d'ordre contemporain, et même où on pouvait nous retrouver, nous autres, justement, ce groupe d'amis, et les gens autour de nous, et Picasso, Mac Jacob. En écrivant un livre sur un sujet grec mythologique, en reprenant et corrigeant Fénelon, c'était le contraire de ce qu'on pouvait attendre. Ça s'est écrit en plein mouvement Dada. C'était la contradiction de Dada.
Les aventures de Télémaque sont un extraordinaire témoignage de liberté et d'ironie par rapport à l'aventure dadaïste et surréaliste.
Daniel Bougnou.
Alors c'est une mince ouvrage d'une centaine de pages, mais quand je dis mince, je pense à une lame de couteau, n'est-ce pas ? Ça désarticule, ça découpe les articulations. Et Aragon, avec une extraordinaire liberté de ton et d'allure, réécrit Fénelon, alors surprenant sujet, Fénelon en 1922, réécrire cet ouvrage d'un prélat. Fénelon avait écrit ce gros roman des aventures de Télémaque qui était devenu un ouvrage, c'est vrai, d'éducation, disons, populaire et non plus royale, jusqu'au début de ce siècle. Et Aragon a toujours dit qu'il avait appris à écrire ou à lire dans Fénelon. Et donc il a réécrit Fénelon comme un hommage à sa propre éducation.
En tout cas, Fénelon, pour l'éducation des jeunes filles. Ce Télémaque-là d'Aragon.
Mais il nous dit des choses très piquantes et très drôles et très insolentes, et d'une insolence retournée contre le dadaïsme lui-même, au nom du dadaïsme, bien sûr. C'est-à-dire que Mentor, le sage précepteur, devient précepteur en dadaïsme, et le jeune Télémaque se rebelle contre la pédagogie dadaïste de Mentor. Mentor incarnant une certaine sécheresse de cœur et une tête à principe dadaïste, ironiquement. Alors que, au fond, Télémaque est plutôt porté sur la sensualité des amours, Absolument. Et donc, il va avoir des aventures avec la nymphe Eucharis. Il va être courtisé par Calypso, qui est amoureuse éperdue de son père Ulysse, lequel l'a quitté, mais Calypso retrouve en Télémaque les traits perdus de son amant. Donc l'amour qu'elle nourrit pour Télémaque est un mensonge, bien sûr, mais un mensonge accepté, voulu, délibéré, d'erreur sur la personne. Donc les aventures de Télémaque, c'est sur le quiproquo et le mensonge constitutif de l'amour, c'est sur le piège amoureux, c'est sur ce leurre maternel et féminin que Calypso tisse autour de Mentor et de Télémaque. Et Aragon nous présente cela très somptueusement, avec beaucoup d'ironie, de complicité pour ses personnages, et de distance, et en même temps d'emportement jubilatoire et sensuel. C'est un ouvrage d'une folle sensualité, Les Aventures de Télémaque.
France Culture, Une voix sans mesure, Louis Aragon, 1897-1982.
Je vois, madame, que vous avez un bon bébé.
Mais oui, monsieur, je suis en train de le bercer.
Tire-l'en-boulaine,
ah, mon acte pérenne.
Tire-l'en-boulaine,
élever son bébé.
Je vois, madame, que vous avez un bon bébé.
Mais oui, monsieur, je suis en train de le laver.
Tire-l'en-boulaine, ah, qu'on a de peine. Tire-l'en-boulaine,
et laver son bébé.